Bienvenue sur Vocation Entrepreneur, le podcast dédié à la psychologie des femmes entrepreneurs. Je suis Ayette, votre hôte, et j'aide les femmes à comprendre les mécanismes de leur psychologie quand elles décident de lancer un business ou lorsqu'elles sont déjà entrepreneurs. Je vous aide à prendre conscience des schémas mentaux dans lesquels vous êtes, à dépasser ces blocages et à passer à l'action maintenant. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme un jeu grandeur nature. Alors, vous êtes prête à jouer? C'est le moment de vous abonner à ma chaîne podcast pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, vous êtes mon invité. Vous souhaitez un thé ou un café? Installez-vous confortablement pour enfin découvrir les secrets de votre mental. Bienvenue dans ce deuxième épisode solo de Vocation Entrepreneur. Un épisode qui va vous parler d'un sujet brûlant, la relation de la femme avec l'argent. C'est un thème qui déchaîne les passions, qui remue beaucoup de choses à l'intérieur. Et je dois avouer qu'en préparant cet épisode, ce ne fut pas de tout repos émotionnellement parlant. Je me suis aidée de plusieurs livres et notamment celui de Christian Junot, « Ce que l'argent dit de vous ». La relation avec l'argent, c'est presque tout, sauf une histoire d'argent. Je m'explique. L'argent est une pauvre victime. On lui colle tous les malheurs du monde alors qu'il s'agit en réalité de quelque chose de complètement inerte. Mais à ce stade, je ne vous demande pas de me croire sur parole. On va d'abord faire le point sur votre relation à l'argent. C'est parti. Vous êtes entrepreneur et il va falloir maintenant penser à rentrer du cash si vous voulez accéder à l'indépendance financière et dire adieu à votre job de salarié. Seulement voilà, tout se passe au mieux jusqu'au jour où vous devez fixer des tarifs et déterminer quel est le chiffre d'affaires mensuel dont vous avez besoin ou envie. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a comme un sentiment de vide. Pas de filet, pas de grille salariale, rien qui ne peut vous servir de référence. Vous ne savez pas combien vous valez, ni combien valent vos prestations, ni même à quel prix vous pourriez vendre vos produits. Vous ne parlez d'argent avec personne, et les rares moments où vous en parlez, vous n'êtes pas franchement à l'aise, et parfois, pour pas dire souvent, ça part en vrille, et les discussions autour de l'argent finissent en dispute. Vous vous refermez alors comme une huître. Votre histoire avec l'argent cache bien plus de choses que vous n'imaginez. C'est un élément indispensable à notre vie de tous les jours et pourtant, on l'occulte comme la peste. C'est un peu une histoire d'amour passionnel. On en a besoin, mais on le déteste et on l'aime à la fois. Christian Junot a identifié trois comportements types dans le rapport à l'argent. Le premier, c'est l'écureuil. L'écureuil aime amasser les noisettes et avoir des stocks de nourriture pour ne jamais être prise au dépourvu. L'objectif est de dépenser le moins possible et d'amasser le plus possible. Ce qui est important ici, c'est le delta entre ce qui entre et ce qui sort. Si vous agissez sur le mode écureuil, vous ressentez le besoin d'anticiper tous les risques de dépenses imprévues. Vous multipliez les comptes épargne et même avec des millions dans le compte en banque, l'acte de dépenser est vécu comme un déchirement. Votre sécurité intérieure est très faible et vous cherchez à la combler en maîtrisant tant bien que mal votre environnement. Le deuxième comportement, c'est celui du saboteur. Si vous êtes dans ce cas, vous faites en sorte d'être répulsive à l'argent. Vous avez développé tout un tas de stratégies pour ne pas gagner suffisamment d'argent. Vous allez vous auto-saboter. Vous n'arrivez pas à évaluer votre travail à sa juste valeur et vous préférez travailler gratuitement ou à très bas coût. Si vous avez une facture en attente, vous n'allez pas la réclamer ou alors uniquement lorsque vous êtes prise à la gorge par un découvert bancaire. Réclamer votre dû est pénible. Vous cherchez à éviter le conflit et laisser votre part d'un héritage ne vous dérange absolument pas. D'ailleurs, vous avez un regard critique envers les personnes qui se battent devant la justice pour obtenir leur part d'héritage au détriment des relations familiales. Ce qui est important pour vous, c'est l'humain, et l'argent pervertit selon vous les relations humaines. Le troisième comportement, c'est un mixte des deux premiers. Vous allez d'abord amasser de l'argent si vous êtes dans une dynamique positive, de sécurité, puis vous allez dépenser cet argent presque d'un seul coup dans ce qu'on appelle une folie. Dans ce schéma-là, vous frôlez constamment le zéro. Vous n'êtes ni à découvert, ni franchement blindé. Mais vous avez tendance à vous débarrasser de ce que vous gagnez lorsque l'argent connote quelque chose de négatif. Vous êtes une acheteuse compulsive et ces achats ne vous procurent pas de satisfaction durable. Alors, bien évidemment, ces trois comportements sont des tendances. Vous allez vous reconnaître ou pas, dans l'un, dans l'autre ou dans les deux selon votre rapport à l'argent. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est ce que cachent ces comportements-là. Si vous êtes une personne à tendance écureuil, vous agirez en fonction de vos peurs. Ce sont donc vos peurs qui vont driver votre rapport à l'argent. La prise de risque est limitée et tout ce qui est accumulé ne doit pas être perdu. Ce dont vous devez prendre conscience, c'est de votre insécurité intérieure. Le problème ici n'est pas l'abondance ou le manque d'argent, mais que vous vous sentiez en insécurité, quel que soit le montant sur votre compte bancaire et vos possessions. Lorsque vous avez de l'argent, vous avez peur d'en perdre. Et lorsque vous dépensez, vous vous sentez en danger. Ici, gagner encore plus d'argent ne réglera pas le problème, il pourrait même l'amplifier. Vous avez pleinement conscience que votre bonheur ne dépend pas de l'argent que vous gagnez, mais vous continuez sur ce schéma car la peur domine tout le reste. Les personnes à tendance saboteur ont associé l'argent à quelque chose de négatif. Ce sont généralement les expériences vécues dans l'enfance ou la relation de votre famille avec l'argent qui ont été déterminantes. Par exemple, le fait d'associer le gain d'argent et le temps de travail est quelque chose qui se fait très tôt de manière inconsciente. Voir les parents partir travailler toute la journée et souffrir d'une certaine solitude liée à cette absence peut créer une répulsion au fait de gagner de l'argent. Car dans la tête d'un enfant, travailler égale argent égale absence des parents, donc l'argent est source de malheur. Concernant ce rapport entre l'argent et le temps de travail, l'enfant intègre très tôt que pour gagner de l'argent, il va falloir donner de son temps. Tout au long de son cursus scolaire ou de formation, il y a toujours cette notion de temporalité qui est liée à l'argent. Et l'objectif, c'est d'avoir le métier qui a le meilleur taux horaire. Un autre problème se pose, c'est le travail qui est assimilé à la pénibilité. Ça, c'est la spécificité française qu'on cultive même en milieu scolaire. On n'est pas là pour s'amuser, on est là pour travailler. Donc, on se résout à accepter la pénibilité et on culpabilise quand on s'éclate dans ce qu'on fait. A contrario, si on a un métier dans lequel on prend énormément de plaisir, demander de l'argent serait contradictoire avec le principe qui assimile le travail à la galère. Donc, l'argent serait proportionnel au niveau de pénibilité et de galère ? La conséquence, c'est de chercher à rendre compliquées des tâches qui, à l'origine, sont très simples. On va essayer de remplir notre emploi du temps pour justifier ce qu'on gagne. Passer beaucoup de temps devant l'écran, donner des bonus, offrir une heure supplémentaire. En gros, c'est soit je prends du plaisir, soit je gagne de l'argent. Toujours cette pensée binaire. Dans ce schéma-là, ça va être compliqué de créer une activité lucrative qui vous procure du plaisir. Et on voit bien la réaction des parents quand leur enfant leur dit « je veux être footballeur » ou « youtubeur ». Eh ben, ça fait pas très sérieux, quoi. Et même si leur enfant gagne beaucoup d'argent, c'est pas de l'argent vraiment mérité au fond. C'est trop et trop facile pour être acceptable. Il y a aussi le fait que gagner de l'argent, lorsqu'on travaille dans les relations humaines, eh ben c'est perçu comme de l'abus de confiance. Le fait de profiter d'une faiblesse pour s'en mettre plein les poches, quoi. C'est pour ça que certaines personnes qui ont un travail social, pourtant à très forte valeur humaine, acceptent le salaire, donc bas, acceptent d'être sous-payé sous prétexte qu'on touche à l'humain. Il y a cette notion de sacrifice. Et dans le business, ça se traduit par des tarifs bas, injustifiés et qui vont surtout mettre en péril l'entreprise. Parce que n'oublions pas, l'objectif d'une entreprise, c'est quand même de gagner de l'argent. Alors maintenant qu'on a brossé le tableau des problématiques relationnelles avec l'argent, je vais essayer de vous donner des axes pour améliorer cette relation. Bien évidemment, on ne peut pas, dans un seul épisode, faire le tour de toute la question, mais j'espère que ces pistes vous motiveront à pousser plus loin la réflexion et on peut échanger sur ce sujet par mail parce que j'aimerais bien avoir vos retours sur la question. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je ne détiens pas la vérité absolue. Chaque personne a une histoire différente et mon point de vue est forcément subjectif. Donc, on va s'intéresser aux différents axes pour améliorer sa relation avec l'argent et ils sont au nombre de 5. Le premier axe sur lequel vous pouvez agir, c'est celui de l'histoire de votre famille avec l'argent. Vous avez l'impression que votre relation avec l'argent est quelque chose qui part uniquement de vous, alors que le comportement de la famille vis-à-vis de l'argent est déterminant dans votre rapport à cet argent. Si par exemple il y a eu une faillite dans la famille et que s'en est suivie une période très triste où la famille manquait d'argent avec les huissiers qui débarquent à la maison pour saisir les meubles, ça c'est le genre d'événement qui traumatise un enfant et qui peut le rendre très méfiant vis-à-vis du fait de gagner un patrimoine. Parce qu'au final, on peut tout perdre du jour au lendemain. Alors pourquoi chercher à le gagner? Ou par exemple, vous avez un parent qui aime passer beaucoup plus de temps à gagner de l'argent qu'à entretenir des relations de qualité avec ses enfants. Donc dans cet exemple-là, l'enfant va assimiler l'argent à un manque d'amour. Ou il va s'imaginer que l'argent est plus important que l'être humain. Donc il va développer un manque d'estime de lui et un refus de gagner beaucoup d'argent en réponse au manque de considération qu'il a ressenti quand il était petit. Lorsqu'il y a des disputes entre les parents à propos de l'argent, l'enfant peut en conclure que l'argent est source de problèmes et qu'il vaut mieux ne pas en avoir. Ou encore, pour le cas de l'écureuil, l'enfant peut avoir eu des parents qui dilapidaient facilement leur argent et ça mettait la famille dans une insécurité financière et de ce fait, il a développé une certaine méfiance vis-à-vis des personnes qui dépensaient trop facilement parce que pour lui, c'est synonyme d'irresponsabilité, voire de danger. Tous ces exemples, et il y en a encore des milliers d'autres, pour questionner le rapport entre votre argent, entre votre relation à l'argent, pardon, aujourd'hui et la relation de votre environnement familial dans le passé. Ça permet de comprendre beaucoup de choses, d'avoir des clés pour déculpabiliser et surtout, une fois qu'on a identifié le problème, de pouvoir travailler dessus. Le deuxième axe, c'est celui de sortir du schéma selon lequel l'argent pervertit une activité. J'ai discuté avec une entrepreneure qui me disait qu'elle avait réussi à régler son problème avec l'argent lorsqu'elle a compris que si elle voulait aider les plus démunis dans le monde, ça ne pouvait pas se faire sans argent. Elle est bénévole dans son association et elle a dépassé le stade de bénévole pour devenir contributrice à une cause. Et là, après un voyage humanitaire où elle a pris la réalité en pleine face, sans argent, elle ne pouvait être d'aucune aide à ses populations. Et à partir de là, son chiffre d'affaires a explosé. En fait, il y avait un sens. Pour vous, ça peut être de donner une meilleure éducation à vos enfants, parce qu'on sait que les activités éducatives coûtent cher, ou on peut trouver en fait un tout autre sens, quelque chose qui nous motive. L'argent permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire sans lui. Donc dans le deuxième axe, c'est redonner à l'argent son simple statut d'outil pour arriver à une fin. La fin, c'est vous qui allez décider de ce que vous allez en faire. Et ce n'est pas parce qu'une partie des gens dans le monde en fait n'importe quoi que vous devez vous exclure de la possibilité de changer les choses, à commencer votre vie grâce à cet argent. Alanis Obosawi disait « Ce n'est que lorsque le dernier arbre sera abattu, que le dernier fleuve sera pollué, que le dernier poisson sera pêché, ce n'est qu'alors et alors seulement que l'homme comprendra que l'argent n'est pas comestible. » En gros, c'est ce qu'on en fait qui est bien ou pas bien, pas l'argent en lui-même. Donc le repousser ou l'accumuler, c'est pas ce qui va régler le problème. Au contraire, ça rajoutera d'autres problèmes liés au manque d'argent ou au fait de l'accumuler sans vouloir le dépenser. Le troisième axe, c'est celui d'accepter les réactions que peuvent avoir les gens vis-à-vis de vous et du fait que vous êtes décomplexé vis-à-vis de l'argent. Et oui, ça fait partie d'une des peurs les plus courantes. Comment va réagir mon entourage si je commence à gagner de l'argent? En réalité, vous projetez votre propre peur sur les autres. Dans le fait de gagner de l'argent, il y a une part de violence, d'animosité. Le meilleur exemple pour ça, ce sont les commerciaux. Ils vont au combat et on n'aime pas ça. Pourtant, sans eux, pas de contrat, pas d'argent pour la boîte et pas de salaire pour les salariés. C'est un peu hypocrite quand même, vous trouvez pas? Et oui, gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur, c'est un peu la bagarre, quoi. Et dans une société dite civilisée, cette notion de bagarre n'est pas politiquement correcte. Il y a notre part sociale qui est régie par des principes qu'on nous a inculqués quand on était petit. C'est bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça. On nous a appris à bien travailler à l'école, à savoir chercher un travail, à savoir réussir un entretien, etc. Mais on ne s'est jamais demandé qui donnait ce travail, comment faisaient ces personnes qui embauchent des salariés pour offrir tous ces avantages de salariés, avec un salaire qui tombe tous les mois, des primes, etc. Je me souviens que je travaillais dans un service recouvrement et que j'estimais normal de récupérer de l'argent. Mais je n'aimais pas les commerciaux, parce que eux assument cette dimension de violence, partent à la chasse et on ne les aime pas pour ça. Pourtant, sans leur contrat, la boîte n'existerait pas, mon job n'existerait pas et je ne serais pas là à réclamer l'argent dû aux clients. Et c'est aussi parce qu'on baigne au quotidien dans les grands discours humanistes. Mais le fait de se défendre pose problème dans une société où notre destin est confié aux mains de l'État. Il y a un problème, l'État va le régler. On perd notre emploi, l'État va nous indemniser. Et en fait, cette mentalité d'assistanat ne développe pas notre autonomie. Et l'entrepreneuriat, c'est une façon de défendre son autonomie et de gagner de l'argent par ses propres moyens. Finalement, assumer votre part d'animosité, ce n'est pas manquer d'humanité, c'est juste être réaliste dans un monde réel. Stan Leloup, le célèbre marketeur, disait « Si on ne sait pas vendre, on va dépendre de quelqu'un qui sait le faire. » Je vous laisse réfléchir sur cette phrase. Le quatrième axe, c'est celui d'accepter l'insécurité de la vie en général. Quel que soit le montant épargné, le nombre de biens possédés, rien de tout ça permettra de vous sentir en totale sécurité. Les événements de la crise sanitaire qu'on vit actuellement montrent bien à quel point les riches et les plus riches sont ceux qui payent le plus en temps de crise. On ne peut jamais tout prévoir, tout anticiper et rentrer dans ce jeu, c'est prendre le risque de devenir paranoïaque. Accepter l'insécurité de la vie, c'est aussi accepter le fait de faire face à l'imprévu. Lorsqu'un événement provoquant l'insécurité arrive, la question à se poser, c'est comment régler le problème et non pourquoi c'est arrivé. L'argent, c'est un flux qui rentre et qui sort. Donc, l'accumuler en pensant atteindre une certaine sécurité intérieure, je pense que c'est illusoire, mais ça n'engage que moi. La sécurité intérieure, elle est ailleurs. Et à contrario, penser qu'en ne gagnant pas d'argent, on va éviter les problèmes, c'est tout aussi illusoire. Déjà parce que l'argent, on en a besoin pour vivre et qu'on a plus de pouvoir de changer les choses avec l'argent bien dépensé qu'avec des beaux discours. D'ailleurs, les plus riches sur cette terre sont ceux qui possèdent le moins. À ce sujet, j'ai découvert un livre très intéressant, Père riche, père pauvre, de Robert Kiyosaki. Et ce livre nous apprend comment jongler avec l'argent et il nous apprend aussi que les riches sur cette terre ne sont pas ceux qui possèdent des biens, mais ceux qui possèdent des avoirs. Le cinquième axe, le dernier, c'est celui de prendre conscience de l'impact de votre relation à l'argent dans vos relations sociales. Si demain vous gagnez beaucoup d'argent, que va-t-il se passer avec votre entourage ? Avez-vous peur qu'ils vous rejettent ? Parce que justement, si eux-mêmes ne sont pas à l'aise avec l'argent, il y a de fortes chances qu'ils vous rejettent. L'imaginer permet d'anticiper la situation et non pas de la fuir. Parce que s'empêcher de gagner de l'argent pour ne déranger personne, c'est une attitude de fuite. Vous n'êtes pas épanoui dans votre situation actuelle et de toute façon, vous dérangerez les autres, quels que soient vos comportements. Donc, vivre en fonction des autres, c'est de toute façon voué à l'échec. Il vaut mieux essayer de se mettre en situation, de la visualiser en se disant comment je vais réagir et quelle stratégie je vais mettre en place pour ne plus avoir peur de la réaction des autres. Ça limitera les conflits provoqués par nos peurs et parfois, on peut avoir d'agréables surprises. Voilà pour les 5 axes d'amélioration dans votre relation à l'argent. J'espère que vous vous êtes un peu réconcilié avec lui. J'espère que cet épisode aussi vous aura permis d'y voir plus clair, à démystifier l'argent et à entamer des nouvelles pistes de réflexion. Vous souhaitez vous sentir légitime à entreprendre ? Allez vite écouter mon épisode 1 sur le syndrome de l'imposteur. À la fin de cet épisode, vous pourrez vous inscrire à ma série d'épisodes privés pour aller encore plus loin sur ce sujet. Vous aimez mon contenu ? La meilleure façon de me soutenir, c'est une note et un commentaire sympa sur Apple Podcasts. Votre bulle introspective est terminée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vocation Entrepreneur. N'oubliez pas, prenez soin de votre mental.